voyez, il y a des tas de choses à apprendre, hein, mais bon, vous verrez au fil du temps. Alors, continuons. Conseil de vie. Une question de Yann. Alors que de nombreux chercheurs reconnaissent que l'ensemble des champs électromagnétiques artificiels agissent profondément sur la structure et l'équilibre de l'eau et induisent une action sur l'homme, que conseilles-tu pour conserver sa vitalité, son équilibre et un bon fonctionnement du système nerveux dans cette situation? Post-scriptum. Bien que le processus d'ascension puisse produire de nombreux symptômes étranges, je suis persuadé que le blocage des symphyses crâniennes causé par le rayonnement électromagnétique des téléphones 3G et 4G et Wi-Fi Max est la principale cause des maux de tête, insuffisance respiratoire et autres troubles cardiaques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la prison dans laquelle nous sommes est une prison vibratoire. C'est-à-dire qu'avant, autant il y avait un voile d'enfermement qui était, on va dire, principalement constitué par des égrégores assez intenses qui faisaient que quasiment c'était vitrifié, quoi. Eh bien, aujourd'hui, la seule manière d'empêcher le préhumain d'évoluer vibratoirement parlant est de polluer son environnement vibratoire. Et le plus grand de tous les pollutions que nous puissions avoir, bien sûr les pollutions chimiques, etc., c'est les pollutions électromagnétiques. Donc ces pollutions électromagnétiques, on les trouve partout, c'est-à-dire partout où il y a l'électricité qui circule, on s'en ramasse. Donc vous imaginez que si vous êtes dans une maison et que elle est baignée dans du 220 volts, vous savez que vous avez tous les fils qui courent dans la maison, hein, ils balancent du 220 volts en 50 Hz, ce qui veut dire que vous êtes sur une cadence de 50 Hz, et d'une manière que vous en rendez même pas compte. Et donc, c'est un exemple. Là-dessus, ben, c'est sûr que si vous rajoutez tout le Wi-Fi, tous les téléphones portables, toutes les conneries comme ça, vous êtes littéralement dans un micro-ondes. Comment voulez-vous élever votre fréquence si en permanence vous êtes en train de vous faire, percer par ces ondes qui vous transpercent, on va dire, l'aura. Alors, la moindre fissure fait que ça va devenir une crevasse. Donc il est évident qu'à chaque fois que vous portez un téléphone portable à l'oreille, c'est la pire des choses que vous puissiez faire. Donc moi, c'est pour ça que j'avais pas de téléphone portable, maintenant bon, il y en a un, mais on le pose sur la table, enfin sur un truc, et puis on essaye d'être assez loin, on va dire, du téléphone, et la conversation, généralement, doit être courte, hein, et généralement, le téléphone est éteint tout de suite après la conversation. C'est pour ça que je donne jamais mon numéro de téléphone, parce que ça sert à rien de m'appeler, c'est toujours éteint. Alors, c'est pareil, le Wi-Fi, c'est interdit ici, hein, c'est-à-dire que tout est monté sur avec des fils, vous savez, à l'ancienne. En fait, faut tout faire pour que tout ce qui est électromagnétique ne soit pas dans votre maison et dans votre environnement. Il est évident que si vous vivez sous des pylônes électriques, hein, là, que vous allez avoir des temps d'ennui, c'est évident. Si vous vivez dans un appartement et au-dessus on a installé des antennes Wi-Fi pour tout le quartier, c'est sûr que prenez vos jambes à votre cou et passez-vous ailleurs. Alors, bah, comment se protéger de tout ça? Il y a plusieurs solutions. Il y a des solutions dites temporaires, c'est-à-dire que vous pouvez, par votre pouvoir créateur, enrober, on va dire, comme d'une capsule, hein. C'est comme, c'est une sphère. Par exemple, je prends l'ordinateur, vous créez une sphère, qui prend à peu près la taille de votre ordinateur, qui l'englobe complètement. Vous lui, insufflez à l'intérieur de ces bulles, on va dire, une forme d'amour, inconditionnel. Je sais que ça peut paraître bizarre comme ça, mais vous allez voir, vous allez comprendre les choses au fur et à mesure que vous montrez en puissance. Et puis, bah, vous mettez deux tuyaux d'échappement, un vers la terre et un vers le ciel, et qui fait que cette protection va faire que toutes les émissions émises électromagnétiques par l'ordinateur seront transmutées par l'espèce de sphère énergétique que vous aurez mis autour d'elle. Alors, cette protection dure un certain temps, donc il faut la renouveler régulièrement. Alors ben, après, vous dites, oui, mais bon, il faut faire ça pour assurer la maison. Il faut faire ça partout, donc on s'en sort pas. Il y a aussi d'autres possibilités, donc ça c'est une possibilité, qui peut se rajouter à d'autres. Vous avez d'autres possibilités, comme au niveau de votre aura. Il y a des possibilités de créer une bulle autour de vous aussi, hein, et donc on appelle ça l'armure, qui va vous permettre de pouvoir réfléchir une quantité d'ondes non négligeable. Ensuite, il y a aussi l'aide avec, on va dire, certains minéraux. C'est-à-dire qu'en portant certains minéraux, par exemple à droite, à gauche, c'est-à-dire que vous avez sur un bracelet gauche, un bracelet droit, moi, bon, j'ai pas mis le bracelet, je mettais des pierres dans une poche à gauche, des pierres dans une poche à droite, et puis, bah, autour du cou, j'en avais une ou plusieurs autres. Et donc, ces pierres irradient, on va dire, une certaine fréquence qui fait que, à la longue, ça, ces fréquences, on va dire, améliorent la réactivité de votre corps et particulièrement des formes géométriques. Donc, vous saviez qu'on était dans une Merkaba double, à double tétraèdre et qu'il y a maintenant nous passons au dodécaèdre. Eh bien, en prenant des pierres particulières qui amplifient, on va dire, l'effet dodécaèdre, eh bien, cela crée, on va dire, un bouclier supplémentaire autour de vous. Alors, qui sont les personnes qui peuvent vous dire quelles sont les pierres que vous devez atteindre, enfin, que vous devez avoir? Ben, c'est simple. Je sais que c'est pas dans cette D12D. Eh bien, ce sont les esprits cristallins. C'est-à-dire que, ben, si vous avez un crâne de cristal avec un esprit cristallin, vous lui demandez quelles sont les pierres, quelles signatures je dois avoir afin d'être protégé contre les ondes électromagnétiques. Et votre esprit cristallin vous dira, ben, il vous faut telle pierre, telle pierre, telle pierre, telle pierre. Celle-là à gauche, celle-là à droite, celle-là au centre. Voilà. Voilà, entre autres, une autre utilisation, de ce que l'on peut faire quand on communique avec les esprits cristallins. Et il y a plein de choses, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a aussi encore d'autres possibilités, bien sûr, mais je vais pas vous énumérer tout ça aujourd'hui parce que c'est pas forcément dans le cadre de CD12D et un certain nombre de formations, je peux dire qu'elles sont confidentielles, mais demandent quand même un certain degré d'ouverture, on va dire. Hein, donc, je pense que j'en reparlerai plutôt sur le blog d'être de la nature. Parce que ici, on est dans un enseignement, on va dire CD12D géométrique, mais bon, c'est bien d'en parler quand même. Donc, pour continuer à répondre à Yann, conserver sa vitalité, son équilibre et son bon fonctionnement du système nerveux, c'est pas seulement du système nerveux, c'est du corps entier. C'est du corps entier. Une question de Bruno. Ces ondes haute fréquence ne seront-elles pas mises à mal un jour ou l'autre par les God Vibration cosmotelluriques? Alors, bon là, je vais répondre oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, la meilleure façon de se protéger des ondes électromagnétiques, c'est de détruire l'instrument qui produit les ondes électromagnétiques. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y aura, on va dire, des CME, je crois. Enfin bref, que quand le soleil va envoyer quelques vagues sérieuses, eh bien, ça va foutre en l'air tous les appareils qui bossent avec l'électricité. Donc, en clair, c'est sûr que tôt ou tard, il va falloir s'attendre au niveau de notre civilisation que ce qui tourne à l'électricité ait de sérieux problèmes de fonctionnement. Ça fait partie du changement de paradigme, car je vous rappelle que vivre en 5D, 6D, c'est qu'il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de moteur électrique, il n'y a plus de ventilateur, il n'y a plus de cafetière, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus tout ça. Pourquoi? Parce que l'internet, ben, vous l'aurez en vous, ça s'appelle la télépathie. Qu'il n'y aura pas besoin d'avoir une voiture avec un moteur électrique parce que vous ferez de la bilocation, que vous n'aurez pas besoin d'une perceuse pour percer un mur, pour faire un trou dans un mur, parce que tout simplement, vous allez demander à la matière, au cristal, de se mettre en telle forme que vous ayez un trou à cet endroit-là et pas ailleurs. Donc, tout ce que nous connaissons aujourd'hui va disparaître. Alors, ça disparaîtra à une vitesse plus ou moins grande, selon, bien sûr, le degré d'évolution que l'humanité suivra. De toute façon, une chose est claire, toute notre civilisation est basée sur l'électricité. Donc, il suffirait d'une bonne décharge du soleil, et c'est prévu pour, d'une bonne décharge du soleil à un moment donné pour que tous les satellites claquent et que, en fait, toutes les centrales électriques claquent et que, bah, en fait, on se retrouve sans électricité. Partant de là, bah, vous aurez plus de wifi, vous aurez plus de téléphone portable, vous aurez plus tout ça et vous allez revenir à l'âge de pierre. Et on verra ceux qui, à ce moment-là, parlent avec les êtres de la nature, ceux qui sont en contact avec l'invisible qui diront, ou avec leur esprit cristallin qui dira, bah, tu sais, tu vas là-bas, puis tu auras exactement l'eau que tu veux. Tu iras là-bas, puis tu verras que t'as quoi bouffer. Mais c'est sûr que, pour l'instant, on peut dire que le préhumain, globalement, est incapable de pouvoir survivre s'il n'y a pas d'électricité. Donc, le monde de 3D, 4D sera, ne survivra pas, on va dire, au passage à la 5D, 6D, avec des appareils électriques ou tout ce qui émet des ondes électromagnétiques. Alors, une question d'Hippocampe concernant la petite voix. Pourrait-on avoir davantage d'outils afin de rentrer en communication avec notre petite voix? J'ai essayé les méditations avec les sens cognitifs, mais je rame. Comment avancer au plus vite sur notre chemin et mettre en application au mieux les outils de retournement vers soi? comment savoir notre mission de vie? Alors, on voit qu'il y a beaucoup de questions, là, de la part d'Hippocampe. Alors, pourrait-on avoir davantage d'outils afin de rentrer en communication avec nos petites voix? Et bien, en fait, c'est là le problème. C'est que si on parle d'outils, c'est qu'on parle de mental. Et si on parle de mental, vous pouvez lui donner 26 000 méthodes. De toute façon, ça améliorera peut-être des choses d'ici, par-ci, par-là. Mais globalement, en fait, écouter cette petite voix est surtout, en fait, dû à notre capacité à lâcher prise. C'est-à-dire que ce sont nos freins intérieurs qui nous bloquent. Et alors, il faut comprendre aussi, c'est un gros phénomène, c'est que vous ne pouvez rentrer en contact avec votre petite voix intérieure que si vous autorisez d'abord à ce qu'elle parle, que vous autorisez aussi que vous soyez ouvert en vous disant « il y a quelqu'un d'autre qui cause dans ma petite boîte là-haut hein, », et que vous acceptez que cette petite voix est, on va dire, le même timbre, la même voix que celle qui vous cause d'habitude quand votre mental parle. En effet, une entité, si je prends un être de la nature, ou que je prends, on va dire, toute autre entité, eh bien, va utiliser votre bibliothèque, va utiliser votre vos sons intérieurs. En clair, vous ne ferez pas la différence entre quand vous pensez, vous causez intérieurement avec vous-même, et quand l'entité cause, vous cause. Vous ne verrez absolument aucune différence. C'est normal. Puisque, comme dirait l'autre, si vous êtes la clarinette, eux, ils jouent sur la clarinette, mais c'est votre clarinette. Donc, il n'y aura pas de différence entre votre clarinette et la clarinette que vous entendrez, puisque c'est la vôtre. Donc, ceci amène énormément de doutes. Donc, souvent, les gens nous disent, moi, je cause pas avec ma petite voix. Si, ils causent déjà, mais ils l'identifient pas comme leur petite voix. Ils l'identifient comme étant leur mental qui cause. Alors ils courent pour trouver, dire mais comment je dois faire pour écouter ma petite voix? Dans la réalité, ils ont pas le, ils l'écoutent déjà, mais ils n'arrivent pas à mettre l'étiquette sur, sur la véritable petite voix. Avec un petit peu d'habitude, vous découvrirez qu'il y a une différence entre votre mental ego qui vous susurre et la véritable petite voix, parce que ça ne joue pas même au niveau du même chakra. Quand c'est votre mental, c'est de la 3D. Donc ça veut dire, c'est do ré mi, donc c'est la note mi. Hein, ici, il est dans l'octave mi, quoi. Dans la note mi. Et puis après, le cœur, c'est pas la note mi, c'est celle qui suit. Donc do ré mi, fa, c'est le fa. Donc la note de musique est sur le fa. Alors que l'autre, c'est sur le mi. Donc forcément, il y a une différence. Alors, si vous êtes sourd comme un pot, donc bouché à l'oreille, il est évident que vous n'aurez pas l'oreille et vous direz, c'est toujours la même qui cause. C'est faux. C'est pas la même. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, souvent, quand quelqu'un me dit qu'il ne parle pas avec sa petite voix, qu'il ne l'entend pas, en fait, il met la mauvaise étiquette dessus. Parce que lui, il s'attendrait, comme dans les films hollywoodiens, il voudrait que quand sa petite voix lui parle, c'est la grosse voix qui cause, qui vous savez, le patriarche, quoi. C'est pas ça du tout. Et votre petite voix a moult façons de s'exprimer. Donc, il y a les sourds, hein, donc les sourds, ils n'entendent pas. Après, il y a les aveugles, c'est-à-dire que les aveugles ne voient pas. Hein. C'est-à-dire que votre petite voix peut s'exprimer de manière différente. Moi, ma manière, on va dire, la plus simple qu'elle a trouvée pour arriver à me faire dire ce que j'ai envie de dire, eh bien, c'est quand je tape au clavier. Je peux pas dire écrire parce que j'écris comme un salaud et je peux pas écrire aussi vite que ma pensée. Mais bon, au niveau du clavier, je me mets et les choses se font. Et puis, je lis ce qu'il y a d'écrit. Donc, il y a des gens qui, par exemple, communiquent avec leur esprit cristallin, avec leur crâne, via l'écriture. Ils entendent pas de voix, mais ils écrivent. D'autres, ça va être des ressentis. D'autres, ça sera des intuitions. D'autres, ça va être autre chose. Donc, il n'y a pas une voix, mais des multiples voix. Et plus vous vous élèverez en fréquence, et plus vous allez voir que ces multiples voix s'ajoutent les unes aux autres à la fin, pour qu'à la fin, ça donne une véritable, que vous ayez vraiment confiance en ce qui est dit. Parce que ça prouvera que c'est vrai. Mais, comme dirait l'autre, il faut de temps en temps quand même débrancher le mental. Et le mental est omniprésent, comme vous pouvez le savoir. Non, c'est pas simple du tout. Alors, mais je rame. Alors, j'ai essayé les méditations avec les sens cognitifs. Bon, les sens cognitifs, c'est simplement un état d'être, donc c'est pas un sens. On va voir que le retournement est surtout important dans le sens que toutes les perceptions que vous avez sont en fait des illusions. Donc si vous comptez sur vos perceptions pour avoir la vérité, vous allez être mal barré. Et donc c'est pour ça que développer son champ cognitif et intuitif, c'est simplement se mettre dans un état vibratoire neutre, qui fait que à ce moment-là, votre véritable truité va se manifester. Et donc, en restant dans cette espèce de champ intuitif et cognitif, les choses viendront à vous et vous sentirez, au fil du temps, des différents erreurs. Ah, il se passe là quelque chose. Ah, tiens, il y a ceci. Ah, il y a cela. Et vous allez progressivement, donc, apprendre à vivre votre être-té. Alors, votre être-té, c'est la 4D, 5D. Donc, c'est un apprentissage, c'est un état de d'être. C'est-à-dire que vous ressentez la chose et c'est tout. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'outil. Il n'y a rien de tout ça. Hein? Alors, toujours hippocampe, mais comment avancer au plus vite sur notre chemin? Pourquoi aller plus vite? C'est tu vas à la vitesse où ça veut aller. C'est-à-dire que si tu veux avancer vite, c'est que ton mental ego est derrière et qu'il atteint, il veut atteindre un objectif et en voulant te faire avancer vite, il te fait monter les marches deux par deux, voire trois par trois, et y a des marches que tu n'auras pas grimpées et que tu ne comprendras pas, et puis quand tu seras arrivé sur le palier, on dira « bah oui, mon coco, mais t'as oublié des choses, faut que tu redescendes ». Donc, il n'y a pas à aller au plus vite, il n'y a qu'à être ce que l'on est, car ce qui veut avancer vite ou avancer d'une manière générale reste quand même une option, on va dire, de la volonté et donc de l'ego. Un état d'être est. Donc, quand on est en paix, on est en paix. On ne dit pas « je veux être encore plus en paix ». Parce que quand tu es en paix, tu es en paix. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour ça que les entités qui sont autour de nous, hein, les EDL et autres, ils ne comprennent pas des fois notre fonctionnement. Quoi. Ils disent, mais on ne comprend pas là, pourquoi ils courent? Parce que nous avons des notions de temps, de linéarité, qu'il faut faire vite. Et ça, c'est une illusion totale. Nous sommes éternels, ça n'existe pas le temps. Pour nous, il existe parce que nous sommes dans l'illusion d'un temps et d'un espace, qui disparaîtra une fois qu'on sera synchronisé. Donc de toute façon, ça commence déjà chez beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que chez beaucoup d'entre vous, vous vous rendez compte que le temps file à une vitesse phénoménale, que vous êtes sur une autre planète quelque part, quoi. Pourtant, vous êtes toujours dans ce corps et en vivant dans cette 3D, 4D. Et pourtant, le temps commence à avoir des fluctuations que ben, vous dites « je comprends pas ». Eh bien, c'est ça le véritable temps. Et ce véritable temps ne se vit qu'au présent. Alors, et mettre en application au mieux les outils de retournement vers soi. Alors, les outils de retournement, il y en a plusieurs, donc j'ai commencé à en indiquer. Hein. Déjà, il y a une manière que je vous ai indiquée, c'est à démonter la caméra du chaman, là, hein. Du Shadok, excusez-moi. Hein. C'est un début, mais il y a d'autres outils qui sont dans les tuyaux, mais que j'ai pas encore le temps de vous remettre. Donc, des outils, on va dire, qui sont une approche... on va dire mental, hein, intellectuel, et puis les outils d'approche véritablement vibratoire, eh bien c'est tout simplement le blog, les messagers de l'un. Les messagers de l'un, c'est purement vibratoire. Là, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à écouter et à ressentir les points bas. Et donc, si vous suivez, comme il est dit, dans l'ordre, les différentes canalisations qui ont été faites, eh bien vous aurez une montée vibratoire, et ceci sans passer par la case intellectuelle. Et donc, ça vous retournera. Ça vous travaillera directement via la vibration et non pas la compréhension. Néanmoins, la compréhension est quand même nécessaire dans bien des cas pour savoir où on va. Parce que si vous montez en vibration et vous n'arrivez pas à vous raccrocher à quelques références, c'est sûr que vous allez devenir un peu montgolfière, ne sachant absolument pas ce qui se passe. Donc, les deux sont obligatoires. Donc, moi, je m'occupe principalement de l'aspect géométrique. Hein, c'est-à-dire la compréhension, et l'aspect vibratoire, c'est pas mon taf, enfin, entre guillemets, c'est le taf de toutes les entités qui ont décidé de canaliser pour vous et de vous envoyer sous code vibratoire. Donc ce qui est écrit ou ce qui est dit n'est pas important en soi, c'est la vibration, le code qui est inclus dedans, qui fera son travail. Saut quantique, une question de 1000. Quand on dit saut quantique, est-ce que c'est quelque chose de rapide ou bien c'est comme le reste du processus ascensionnel, c'est-à-dire progressif? Alors je vais faire une réponse de Normand. Un saut quantique, c'est progressif mais très vite. Parce que tout dépend comment on veut mesurer la progression. Parce que si, par exemple, je représente une courbe qui monte très vite, il suffit que j'agrandisse l'X, hein, c'est-à-dire la taille horizontale, et il va devenir très lent. Donc, ça veut rien dire. Mais bon, je comprends ce que Mill veut dire, c'est-à-dire qu'un saut quantique est quelque chose d'effectivement soudain par rapport au reste. C'est-à-dire que c'est le passage d'un état à un autre état, comme par exemple un électron qui passe d'une couche à une autre couche. C'est pour ça qu'on dit quantique, parce que ça s'appelle un quanta, c'est une quantité d'énergie. Donc quand la quantité d'énergie est suffisamment accumulée, d'un seul coup, ça bascule. D'un seul coup, ça bascule. Mais ça va basculer d'une manière pas lente et gentiment, etc. Non, ça bascule d'un seul coup. C'est comme si vous aviez, vous savez, comme une espèce de balance où quand arrive un poids, ça libère un crochet et la charge qui est accrochée au levier descend d'un seul coup. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que ça se remplit, vous savez, comme un sablier, quoi. Tac, 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 tac. Et quand ça arrive en fin de sablier, il y a suffisamment de poids dans le truc, paf, ça déclenche et ça y est, c'est parti sur une autre couche. Donc effectivement, c'est excessivement rapide et on ne sait absolument pas quand ça va arriver. Donc c'est pour ça que l'effet boule de neige est très 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 important au niveau de l'humanité. Ainsi, chaque personne qui augmente sa vibration, même s'il semble qu'il ne rien ne se passe chez lui, eh bien quand vous accumulez toutes ces vibrations les unes aux autres en termes d'amplitude, eh bien vous allez voir qu'arrivé un moment, on atteindra une amplitude suffisante pour que tout bascule d'un seul coup. Et là, dans un délai extrêmement record, eh bien, les choses vont complètement changer. Bon, un saut quantique, par exemple, eh bien, il y a une déferlante du Soleil, et dans les 24 heures, il n'y a plus aucun courant électrique qui circule nulle part sur la planète. C'est un saut quantique. On passera de la soi-disant civilisation super évoluée à Cro-Magnon. Voilà, ça c'est un saut quantique. C'est-à-dire, il suffit d'un événement, et qui dure pas pendant 150 ans, parce que sinon on s'adapterait, eh bien, paf, c'est terminé. Et là, tu te dis, bon, on fait quoi là maintenant pour allumer le gaz? Puis d'abord, le gaz, il viendra plus, puisqu'il n'y aura plus de moteur pour pousser le gaz dans les tuyaux. Donc on fait quoi là? On dira, bah oui, il faut aller couper une branche d'arbre. Bah oui, c'est bien d'aller couper la branche d'arbre, mais si t'as pas une scie manuelle, parce que si t'as tronçonneuse, ça ne marchera plus. Ah merde. On va dire, bah oui, mais attends, je vais allumer le feu. Ah bah oui, mais là, on n'a plus de briquet, parce que bah, on les a tous épuisés. Donc il va falloir reprendre des cailloux, de silex, et puis refaire un truc, quoi. Donc vous imaginez, et c'est pour ça que tout ce que nous découvrons des grottes préhistoriques n'est que tout simplement ce qui s'est passé globalement à un changement, on va dire, d'air, tout simplement. Donc nous avons retrouvé des grottes avec des mecs qui vivaient comme ils pouvaient, et en fait ce n'était pas toute la population, c'était une partie de la population, et qui ont été obligés de vivre comme des... de redécouvrir la préhistoire. Hein. Donc imaginez... que ce que nous vivons en tant que préhistoire, ce que certains individus ont vécu en tant que préhistoire, correspond à une minorité de la population, d'abord. Pourquoi? Parce que l'autre, elle a été décapée. Donc, c'était des survivants. Ouais. Alors, parce que quand même, sincèrement, on peut quand même se poser la question, comment des individus qui vivaient avec des peaux de bête et qui jouaient avec un silex s'amusaient à vouloir peindre sur les murs, hein. Parce que l'art, on voit pas de qui ça peut venir. Est-ce que vous voyez, vous, des animaux faire de l'art, de la culture, de la culture, du culturel? Non, il n'y a aucun animal qui se dit « Attends, ne touche pas mon terrain, là, parce que j'ai fait un beau dessin. » Ils ne connaissent pas. Donc, ce qui veut dire que bien que les hommes préhistoriques ont été, en fait, des hommes civilisés qui, d'un seul coup, sont passés d'un stade très évolué à un stade ils n'avaient plus rien. Donc, ils ont fait avec les moyens du bord, comme on dit. Les enfants. Une question de Jean-Louis. Mon fils, très sensible aux énergies, ne veut plus aller à l'école avec une de ses maîtresses, sensible également à l'injustice, cas de punition collective. Cela devient beaucoup plus difficile pour lui et pour nous depuis janvier. Lui parler de protection à 10 ans est difficile. Alors, il est évident que, surtout les gamins, comme ils sont moins formatés que ceux qui sont moins gamins, ils sont plus sensibles à tout ce qui se passe, normal, puisqu'ils n'ont pas été encore insensibilisés. Donc, ils ne savent pas comment réagir. Et, comme dirait l'autre, c'est une zone d'inconfort. Nous aurons donc tous une zone d'inconfort, autant les adultes que les enfants. Sauf que les adultes, bon, il y en a qui vont vraiment péter les plombs. Et puis, ben, ceux qui sont des travailleurs de la lumière, enfin ceux qui ont compris qu'il fallait retourner vers la source, c'est-à-dire augmenter sa vibration, donc être dans le processus de l'ascension, vont quand même avoir de gros inconforts. On est d'accord. Mais ils comprendront pourquoi ils ont ces inconforts. Par contre, les enfants, ben, mentalement, ils vont pas trop comprendre, mais en attendant, comme ils vivent beaucoup plus leur instant présent, ben, ils le vivent mal, quoi. Alors que faire? Ben, leur expliquer, dire ben, que c'est temporaire, que ça passera, ben, que ça passera, que ça va s'amplifier, mais qu'arrive un moment, ça sera différent. Mais qu'en attendant, ben, comme dirait l'autre, il faut encaisser, quoi. Hein, c'est comme si on avait d'un seul coup un hiver qui pointait à moins 40, c'est évident que même la chaudière la plus puissante que vous aurez, elle n'arrivera pas à vous maintenir à 20 degrés dedans. Hein, ou sinon, la cuvache ou la glucose dans les deux jours. Donc, il comprendra qu'il fait froid et qu'il va faire se mettre des couvertures et que ben, se trimballer en petit maillot et cul nu dans la maison, ça va pas le faire. Donc, au bout d'un certain temps, il se dira « Bon, ben, je vais mettre les chaussettes, la paire de chaussures, le parka, et puis éviter d'aller faire le con dehors parce que dehors, il fait vraiment froid. » quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est des zones d'inconfort et on n'a pas grand-chose qu'on peut faire. Sauf, bien sûr, éliminer tout ce qui peut nous parasiter. Aussi bien nous que, bien sûr, les enfants. La meilleure façon de pas se faire choper par la maîtresse et tout ça, bah, c'est qu'il aille plus à l'école. Mais pour faire comprendre à des parents que leur gamin, c'est plus la peine qu'ils aillent à l'école, comme dire d'ailleurs aux adultes, c'est plus la peine d'aller au boulot, je sais que c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est possible. Quand on sait combien il y a de millions, de centaines de millions d'enfants qui vont pas à l'école, je vois pas pourquoi chez nous c'est un problème de pas les mettre à l'école. Une dernière question que j'ai vue, il y a une question d'Alexandre qui dit « Comment rebranche-t-on les chakras 8 à 12 ?» Alors, c'est une question qui sera abordée, on va dire, au fil de mes publications sur cette D12D, parce que c'est une opération qui n'est possible que par, on va dire, un intervenant extérieur, qui n'est pas forcément un intervenant, on va dire, physique, hein, d'abord. Donc, c'est-à-dire que c'est une entité en général qui va te dire ce que tu dois faire, parce que dans la réalité, il n'y a que toi qui peux redresser. C'est comme si on avait mis une chaîne avec un cadenas, mais qui est à l'intérieur de chez toi. Donc, l'entité ne peut pas venir ôter le cadenas. Donc, c'est toi qui peux ôter le cadenas. Mais il faut qu'elle te dise comment il faut que tu fasses pour y arriver. Parce que toi, tu n'y arriveras pas si quelqu'un d'autre extérieur ne te le dit pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est à peu près ça. Donc, aucune entité extérieure ne peut ôter le cadenas qui vous bloque les chakras 8, enfin, qui débloque d'abord la connexion du quatrième chakra avec le huitième et celle du douzième avec le sixième. Donc ça, déjà, il faut comprendre que ce n'est que vous, en tant que Dieu incarné, que créateur incarné, que vous pouvez le faire. Mais pour cela, il faut être sous la guidance d'une autre entité. Et cette autre entité ne peut pas être, enfin, pour l'instant, jusqu'à dernier cri, un humain. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'humain ne peut pas voir ce qui est en train de se faire. D'accord? Donc, quelqu'un qui dit « Attends, je vais te faire tes trucs », bon, c'est vachement bien. Mais pour l'instant, moi, je vous dis que c'est pas possible, hein, parce que la personne, c'est un processus mental qu'elle va faire, mais elle ne voit pas exactement ce qui se passe. Par contre, quelqu'un qui est dans l'invisible, eh bien, voit effectivement comment se comporte, on va dire, votre cube métatronique. Et donc, en regardant comment se comporte votre cube métatronique, elle peut vous guider. Fais ceci, fais ceci, fais cela, alors maintenant ceci, maintenant cela, et va pouvoir vous aider à donc débloquer ce qui a été bloqué, les chaînes. Parce que vous pouvez imaginer que si ces chaînes sont là depuis si longtemps, que beaucoup sont rouillées. Donc, dans certains cas, ben, vous pouvez prendre une clé dans le col, dans d'autres, il va falloir sortir le chalumeau. Ou passer par d'autres biais pour arriver à. Donc, ce n'est que par l'intervention d'une autre personne extérieure qui peut voir l'invisible. Voilà. Donc, moi, ainsi que d'autres personnes, on réussit, entre guillemets, à faire cette opération parce que nous étions effectivement en contact avec un guide qui nous a permis de dire ce qu'il fallait que nous fassions pour pouvoir le faire. Mais grosso modo, je veux dire, on a été aussi bêtes que des, que des balais quelque part. On a suivi scrupuleusement à la virgule près tout ce qu'ils nous ont dit. On n'a pas cherché à comprendre, oui, mais pourquoi ceci, ça, rien. On dit, fais ça, ok, on fait. Maintenant, fais ça, ok, on fait. Donc, vous comprenez que c'est une opération délicate. Et bien sûr, si une personne veut faire cela, alors qu'elle n'est pas en contact, elle n'a pas développé suffisamment, n'est pas montée suffisamment en fréquence, elle ne pourra pas y avoir droit. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire montez en fréquence, montez en fréquence, montez en fréquence. Car arriver à une certaine fréquence, alors à ce moment-là, c'est possible. Si vous voulez déplier, par exemple, un cube qui est complètement replié et qui est complètement fou dans la vase, ça va pas jouer. Donc il faut d'abord le sortir de la vase, et une fois qu'il est sorti de la vase, on peut commencer à déplier le cube. Mais si vous êtes encore dans la vase, on ne pourra pas le déplier puisqu'on ne saura pas où est le cube. Donc comprenez que ce n'est pas un exercice mental, c'est un exercice vibratoire. Donc aujourd'hui, augmenter votre fréquence, et je le dis et je le répète encore, augmenter sa fréquence correspond à virer tout ce qui vous empêche de monter en fréquence. Alors, une autre question. Une question de Bruno. Sananda était Jésus. Adama, Michael, donc trois âmes en lui, qu'en penses-tu? Sananda aurait été épaulé par Adama, Jésus et Michael. Alors, on va inverser un peu les choses. Jésus, ça c'est le nom qui a été donné par les religieux. La véritable entité, c'est Sananda. D'accord? Donc, l'individu Jésus, Yeshua, etc., parce que je vous dis, tout ça c'est des noms qui sont donnés par les religions, croyez-moi que Jésus, ça sonne absolument pas arabe. Disons que je vous rappelle que quand même, Jésus, l'entité Yeshua était quand même un juif et donc un arabe, un sémite. Donc il avait un nom qui avait une consonance sémite, et c'était pas Jésus. Alors, vous allez me dire que quand on dit en espagnol « Jesús », je vais dire, alors là on est à milieu de ce qui se passe. Donc les noms qui ont été donnés à Sananda, par l'individu Yeshua, alors d'autres c'est Yoshua, enfin il y a un peu de tout, n'a rien à voir avec Jésus. Mais l'entité, c'est-à-dire l'entité Sananda, c'est l'esprit directeur, c'est le nom de l'esprit directeur de l'entité. Donc Adama est quelqu'un de ma mémoire qui est une entité de l'intra-terre, et Michael c'est donc un archange, d'accord. Et donc cet archange a une particularité, c'est que il est celui qui amène à la maîtrise du corps des manifestations. En clair, le meilleur prof que vous puissiez avoir pour maîtriser votre corps de manifestation est tout simplement Michael. Après, pour la maîtrise du cube métatronique, c'est-à-dire aller au-delà de la 12e dimension, c'est Métatron. Donc Métatron est connu comme étant l'archange des archanges. Donc chacun son boulot. Donc on va dire que Michael, globalement, est le maître d'œuvre de tout ce qui touche le dodécaèdre. Alors que Métatron est celui qui touche l'icosaèdre. Donc là, c'est déjà des trucs que je voulais vous dire un petit peu plus tard sur cette D12D. Bon, là, je vous l'avance un tout petit peu. Donc chacun son taf, chacun son boulot, chacun sa spécialité. Et donc, par rapport à ce que j'ai dit hier, Adama est de l'intra-terre. Donc ça veut dire c'est un frère humain, entre guillemets, qui est simplement dans une dimension supérieure. Puisque l'intra-terre, globalement, gigote de la 5D, on va dire, à la 9D en gros. Donc ils sont en 5, 6, 7, 8 et pour certains 9D. Donc c'est quelqu'un de l'intra-terre. Donc il a eu des coups de main. Il a eu un coup de main, on va dire, du ciel, c'est-à-dire Michael, et un coup de main, effectivement, de l'intra-terre. Donc c'est pour ça que si vous prenez par exemple la cour en miracle, il dit si tu passes moi Christ, je suis Christ, que je t'aide, etc., c'est tout simplement l'entité Sananda qui vient donner un coup de main, parce que lui il a acquis l'expérience de comment maîtriser son corps de manifestation et donc devenir Christ. Car je rappelle, Christ est un grade. Donc il y a Jésus-Christ, il pourrait y avoir Laurent Christ, j'espère un jour d'ailleurs, il pourrait y avoir quelqu'un Christ, c'est un grade vibratoire. Donc comme Sananda est le seul jusqu'à maintenant ayant eu la possibilité de devenir Christ d'une manière consciente, parmi les Orantiens, il est évident que tout Orantien qui a envie de faire comme lui, il appelle à lui, quoi. Donc on n'est pas obligé de passer par Adama ou par Michael ou autre, si vous arrivez à vous connecter à sa mandala. Mais bon, ça n'empêche pas quand même de causer avec Michael et d'autres, hein. Je veux dire, c'est pas limitatif, hein. C'est pas limitatif. Alors, attendez, je lis une autre question de Nicolas. Quelque chose me taraude. Christophe Alain, qui est un clairvoyant en qui j'ai vraiment confiance, perçoit Ashtar et la configuration comme un égrégore créé par le FBI, avec le côté positif et négatif selon quelle fréquence on se branche. Alors, là, je veux pas aller dans les détails par rapport à tout ça. Déjà, premièrement, il y a des tas de gens qui communiquent avec beaucoup d'entités. Or, ça fera, on va dire, affaire d'un autre article de comment les entités arrivent à nous connecter nous. Car vous imaginez que quelqu'un qui est dans l'air là-haut, il arrive à causer au mollusque qui est dans la vase à 1000 mètres sous l'eau. Donc en fait, quand nous disons « Ah, nous parlons à Ashtar », avec quelle partie de Ashtar parlez-vous? Avec une partie qui est à moins 500 mètres, on va dire, de profondeur, ou à moins 1000 mètres de profondeur? Donc il y a des parties dégradées des entités. Et donc, j'ai entendu parler de ce fameux Christophe Alain, très bien, il est clairvoyant, formidable, mais qu'il sache qu'il n'est pas le seul, premièrement, et que deuxièmement, sa vision avec un gros troisième œil sur son bouquin est une ânerie monstre, puisque c'est l'un des blocages principaux entre le sixième et le douzième chakra. Quand vous aurez démoli votre troisième œil, vous verrez la vérité. Avec votre troisième œil, vous pouvez voir que l'astral. Donc, autant cet individu est à avancer sur son chemin, et je suis très content qu'il ait avancé, autant il l'a pas fini. C'est-à-dire que quand il aura débloqué ce fameux troisième œil, dont il a utilisé, on va dire, clairement, hein, dans le sens qu'il a bien visité l'astral et à fond, d'accord, mais maintenant il saurait bien qu'il passe à l'étape suivante. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressant, je le dis, hein, c'est une marche, mais c'est pas la dernière marche, c'est une marche parmi d'autres. L'objectif est d'aller plus loin que l'astral. Hein? Donc c'est pour ça que dans sa vision, il peut dire que selon le côté, bah, Ashtar, c'est du bon, c'est pas du bon. Bah, quand il sera au-dessus de l'astral, qu'il aura dépassé ça, eh bien il verra qui est Ashtar. Et il ne verra pas une version dégradée d'Ashtar. Comprenez que tous les égrégores qui nous manipulent, hein, qui sont la somme de pensées humaines, et qui sont bien sûr sous la coupe des Illuminati, dites-vous bien qu'ils ont intérêt à déformer tout ce qui vient de au-dessus. Donc s'ils peuvent utiliser une image d'Ashtar en la trafiquant à mort pour faire croire que c'est un truc du FBI, eh bien ils auront réussi leur coup, c'est-à-dire bah, plus personne n'écoutera Ashtar. Regardez ça comme ça. Donc il y a beaucoup de marcheurs sur le chemin qui se font avoir dans l'illusion en pensant avoir trouvé, à dire « Ah ouais, là, là, il y a ceci, il y a cela. » D'accord, mais il faut aller plus loin. Ok ? Donc c'est pour ça qu'il est important que vous fassiez votre propre discernement par rapport à tout ça. Et le plus grand discernement que vous puissiez avoir, c'est par rapport à votre propre évolution personnelle, et non pas à travers les dires de quelqu'un. Moi, je peux vous raconter autant de conneries que je veux. Alors, vous allez me suivre parce que je raconte des trucs si ça vous paraît intéressant. Non, je suis là pour vous donner des infos, mais de toute façon, le travail, vous êtes le seul à pouvoir le faire. C'est à vous d'élever votre fréquence, c'est à vous de ressentir ce qui est bon ou pas bon pour vous. Et il y a toutes les marches pour y arriver. Donc moi, j'ai bien commencé à lire des canalisations de d'autres gens. Bon, par exemple, ce monsieur Christophe Alain est arrivé bien trop tard par rapport à moi, hein, parce que je suis certainement plus vieux que lui. Donc, le truc, ça, son chemin, il l'a fait très bien. Donc, moi, ce qu'il a fait, je l'ai fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, le truc, je le connais pas beaucoup, mais suffisamment pour savoir qu'il a encore un bout de chemin à faire. Mais nous avons tous encore du chemin à faire. Vous savez, quand je serai radieux comme un soleil et que je ferai des miracles à la Jésus, on pourra dire que peut-être j'aurais fait du chemin. Mais pour l'instant, tant que je n'avais pas fait, on va dire, de démonstration véritable, en quoi pouvez-vous avoir confiance en moi? Donc, faites votre discernement, ressentez les choses, développez votre champ cognitif et intuitif, développez la connexion avec vos petites voix, virez tout ce que vous pouvez, et puis ben, vous verrez bien clair dans votre appartement, et vous verrez bien comment ça se passe. Donc, des bouquins qui m'ont fait avancer, des gens m'ont fait avancer, des enseignements qui m'ont fait avancer, je ne crache pas dessus, parce qu'ils m'ont fait avancer, mais aujourd'hui sont obsolètes. Donc il en est de même pour toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie. Il peut y avoir des personnes qui vont vous faire grandir pendant un moment, et qui arrivent à un moment, ne vous feront plus grandir, mais ça sera l'inverse, vous emprisonneront dans leur enseignement. Donc soyez conscient de cela. Votre élévation de fréquence ne dépend pas des autres. Il dépend de votre aptitude à discerner en vous ce qui est vrai de ce qui n'est pas. Or, ce qui est vrai n'est pas le fruit d'une cogitation mentale, mais la résultante de véritables ressentis et intuitions que vous avez en vous. Parce que ça, là, comme je le dis, dans le cœur, il n'y a aucun neurone. Donc, il ne réfléchit pas, il est. Donc, tant que vous vous rapprocherez de votre être-té, plus vous serez sûr que vous serez dans la vérité. Mais tant que vous réfléchirez et que vous donnerez, on va dire, crédit à des personnes extérieures, même moi-même, hein, et c'est surtout ça, c'est pour ça que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me suivent. Moi j'amène de l'info, maintenant vous faites ce que vous voulez avec. C'est pas mes oignons. Vous comprenez cela. Donc, ne restez pas accroché sur des enseignements, ne restez pas accroché sur des philosophies, ne restez pas accroché sur des choses. Parce que rester accroché sur des choses comme ça, c'est vouloir rester sur la même marche. Donc, montez les marches une par une. Et on se fout de quelle marche vous avez pris pour monter l'escalier. Parce que l'objectif est d'arriver sur le palier. Et quand vous serez arrivé sur le palier, on s'en fout. Il y en a qui seront montés à la corde, d'autres qui seront montés sur une échelle de bois, d'autres sur une échelle en alu, d'autres sur un escalier en béton. On s'en fout. L'essentiel est d'arriver sur le palier. Et le palier est simple. Il s'appelle 5D6D. C'est-à-dire que dès que vous arrivez à cette fréquence, eh bien, les choses deviennent d'un seul coup plus claires, plus limpides, plus évidentes, plus fluides. Et puis, ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que quand on est dans l'être-té, on vit l'instant présent. Et si on vit l'instant présent, on n'a rien à battre du passé. Encore moins du futur. D'accord ? Donc, vous comprenez que tout est bon, comme tout peut être mauvais. C'est à vous de voir ce qui vous fait avancer maintenant. Vous savez, il suffit d'un petit déclic pour que d'un seul coup vous passiez une marche supérieure. Et puis voilà. C'est-à-dire que un déclic, c'est tout simplement une porte qui s'ouvre en vous et qui vous fait découvrir qui vous êtes. Et donc qui vous amène plus de capacité à mieux discerner encore. Donc, tous les déclics sont bons. Qui viennent par des vidéos, des sonos, des webconfs, des écrits, des gens que vous rencontrez dans la rue, des gens qui habitent à l'autre bout du monde, des gens qui sont morts depuis 200 ans, on s'en fout. Le principal est de réouvrir nos portes intérieures. Et en ouvrant ces portes intérieures, eh bien, les choses viennent d'elles-mêmes. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, et puis je vous dis donc à la prochaine webconf, en espérant que j'aurai aussi quand même suffisamment de temps pour écrire quelques articles et vous faire quelques vidéos, car j'ai bien conscience que sur ces D12D, pour l'instant, ça a été un petit peu le repos cette semaine. Voilà, merci à vous tous, et à la prochaine.